Acte 3, scène première. Verbinette, Hyacinthe, Scapin, Sylvestre.
Oui, vos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble, et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné.
Un tel ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagne de la sorte, et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux.
J'accepte la proposition, et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié.
Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque ?
Pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques, et je n'y suis pas si hardie.
Vous l'êtes, que je crois, contre mon maître maintenant. Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion.
Je ne m'y fie encore que de la bonne sorte, et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée, et sans cesse je ris, mais tout en riant. Je suis sérieuse sur certains chapitres, et ton maître s'abusera. S'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir tout à lui, il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et, pour répondre à son amour, de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires.
C'est là aussi comme il l'entend. Il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur. Et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée.
C'est ce que je veux croire, puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements.
Nous trouverons moyen d'accommoder les choses.
La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Et nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune.
Vous avez cet avantage au moins, que vous savez de qui vous êtes né, et que l'appui de vos parents, que vous pouvez faire connaître, est capable d'ajuster tout, peut assurer votre bonheur, et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Mais, pour moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être, et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien.
Mais aussi, avez-vous cet avantage ? Que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez.
Le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. On se peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquête. Et ce que je vois de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle, auprès de qui tout le mérite ne sert de rien.
Hélas, pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées ? La douce chose que d'aimer lorsqu'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble.
Vous vous moquez. La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs.
Mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce récit. Qu'on me dit qui est si plaisant, du stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte, et que je le paie assez par la joie qu'on m'y voit prendre.
Voilà Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter le plaisir.
Pourquoi de gaieté de cœur veux-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires ?
Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses.
Je te l'ai déjà dit, tu quitterais le dessein que tu as si tu m'en voulais croire.
Oui, mais c'est moi que j'en croirais.
À quoi diable te vas-tu amuser ?
De quoi diable te mets-tu en peine ?
C'est que je vois que sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton.
Eh bien, c'est aux dépens de mon dos et non pas du tien.
Il est vrai que tu es maître de tes épaules. Et tu en disposeras comme il te plaira.
Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté, et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre.
Nous aurons besoin de tes soins.
Allez, je vous irai bientôt rejoindre. Il ne sera pas dit qu'impunément on m'ait mis en état de me trahir moi-même et de découvrir les secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas.
Scène 2. Géronte, Scapin.
Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils ?
Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis.
Comment donc ?
À l'heure que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer.
Moi ?
Oui.
Et qui ?
Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent tous ceux qu'ils trouvent et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison. De sorte que vous ne sauriez aller chez vous, vous ne sauriez faire un pas, ni à droite ni à gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains.
Que ferais-je, mon pauvre Scapin ?
Je ne sais pas, monsieur. Et voici une étrange affaire. Je tremble pour vous, depuis les pieds jusqu'à la tête.
Il se retourne et fait semblant d'aller voir au bout du théâtre s'il n'y a personne. Géronte, en tremblant.
Et ?
Scapin, en revenant.
Non. Non, ce n'est rien.
Ne saurais-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine ?
J'en imagine bien un, mais je courrais risque, moi, de me faire assommer.
Hé, Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie.
Je le veux bien, j'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours.
Tu en seras récompensé, je t'assure, et je te promets cet habit-ci, quand je l'aurai un peu usé.
Attendez, voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac, et que...
Ah !
Non, ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans, et que vous vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos, comme un paquet de quelque chose, et je vous porterai ainsi, au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison. Ou, quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence.
L'invention est bonne.
La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture.
Et ?
Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond, et surtout prenez garde de ne vous point montrer et de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver.
Laisse-moi faire, je saurai me tenir.
Cachez-vous ! Voici un spadassin qui vous cherche.
Quoi ? Je n'aurais pas l'avantage de tuer ces Gérontes et quelqu'un par charité ne m'enseignera pas où il est ?
Ne branlez pas.
Cadédis, je les trouverai, se cacha-t-il au centre de la terre ?
Ne vous montrez pas.
Oh, l'homme au sac !
Monsieur,
je te vaille un louis et m'enseigne où put être Géronte.
Vous cherchez le seigneur Géronte ?
Oui, mordi, je les cherche.
Et pour quelle affaire, monsieur ?
Pour quelle affaire ?
Oui.
Je veux, cadédis, les faire mourir sous les coups des bâtons.
Oh, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte.
Qui ? Ces fates des Gérontes, ces maraudes, ces vélitres.
Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni fat, ni maraud, ni bélitre, et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon.
Comment t'y me traites à moi avec cette hauteur ?
Je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on offense.
Est-ce que t'y es des amis de ces Gérontes ?
Oui, monsieur, j'en suis.
Ah, Cadédis, tu es de ses amis à la vonure.
Il donne plusieurs coups de bâton sur le sac.
Tiens, voilà ce que j'y étais vaille pour lui. Monsieur. Monsieur tout beau. Doucement. Portez-lui cela de ma part. Adiusias. Oh, diable soit le Gascon.
En se plaignant et remuant le dos, comme s'il avait reçu les coups de bâton. Géronte mettant la tête hors du sac.
Ah, Scapin, je n'en puis plus.
Oh, monsieur, je suis tout moulu, et les épaules me font un mal épouvantable.
Comment ? Ce sont les miennes qu'il a frappées.
Nenni, monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait.
Que veux-tu dire ? J'ai bien senti les coups, et les sens bien encore.
Non, vous dis-je, ce n'était que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules.
Tu devais donc te retirer un peu plus loin, pour m'épargner.
Scapin lui remet la tête dans le sac.
Prenez garde ! En voici un autre qui a la mine d'un étranger. Parti, moi, courir comme une basque, et moi, ne pouffre point trop faire de tout le jour si diable et gironte. Cachez-vous bien. Dites-moi un peu, fou, mon sire l'homme, s'il vous plaît, fou savoir point où l'est sti gironte que moi cherchère. Non, monsieur, je ne sais point où est Géronte. Dites-moi le fou, Frenchement. Moi, il fouloir pas grande chose à lui. Les seulement est pour le donner une petite régale sur le dos d'une douzaine de coups de bâton et de trois ou quatre petits coups d'épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où il est. Il me semble que Chifois remuère quelque chose dans ce sac. Pardonnez-moi, monsieur. L'y est assurément quelque histoire là-dedans. Point du tout, monsieur. Moi, l'avoir envie de donner un coup d'épée dans ce sac. Oh, monsieur, gardez-vous-en bien. Montre-le-moi un peu, fou, ce que c'est être là. Tout beau, monsieur. Comment tout beau? Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, je le fouloir voir, moi. Vous ne le verrez point. Ah, que de badinement! Ce sont hardes qui m'appartiennent. Montre-moi, fou, te dis-je. Je n'en ferai rien. Toi, ne faire rien? Non, moi, paillé de ce bâton dessus les épaules de toi. Je me moque de cela. Ah, toi, faire le troll. Monsieur. Jusqu'au refoir. L'être là, une petite leçon pour lui apprendre à toi à parler insolentement. Ah, peste soit du baragouineux.
Géronte sortant la tête du sac.
Ah, je suis roué.
Oh, mais je suis mort.
Pourquoi diantre flotte-t-il qu'il frappe sur mon dos?
Scapin lui remettant sa tête dans le sac.
Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats, tout ensemble. Allons, tâchons de trouver ce Géronte. Cherchons partout, n'épargnons point nos pas, courons toute la vie, n'oublions aucun lieu, visitons tout, furetons de tous les côtés, par où ira-t-on, par où irons-nous, tournons par là, non, par ici, à gauche, à droite, nenni, si fait, cachez-vous bien. Ah, camarade, voici son valet. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Hé, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est, parle, hâte-toi, expédions, dépêche vite, tôt. Hé, messieurs, doucement.
Géronte met doucement la tête hors du sac et aperçoit la fourberie d'Escapin.
Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître.
Nous allons t'assommer.
Faites tout ce qu'il vous plaira.
Tu as envie d'être battu?
Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu veux en tenter? Voilà! Oh, oh, oh.
Comme il est prêt de frapper, Géronte sort du sac et Scapin s'enfuit.
Ah, oh, infâme! Ah, oh, traître scélérat! C'est ainsi que tu m'assassines!
Scène 3. Zerbinette, Géronte.
Je veux prendre un peu l'air!
Tu me le paieras, je te jure!
La plaisante histoire et la bonne dupe que ce vieillard!
Il n'y a rien de plaisant à cela, et vous n'avez que faire d'en rire.
Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur?
Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi.
De vous?
Oui.
Comment? Qui songe à se moquer de vous?
Pourquoi venez-vous ici me rire au nez?
Cela ne vous regarde point, et je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire, le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent.
Par un fils à son père pour en attraper de l'argent?
Oui, pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée à vous dire l'affaire, et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais.
Je vous prie de me dire cette histoire.
Je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire, et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune, et quelquefois beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et est conçu pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas, et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens, qui croient qu'il n'y a qu'à parler, et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient, et il les trouva disposés à me laisser à lui moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fieffé, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aïe, aidez-moi un peu! Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être un avare au dernier point?
Non.
Il y a à son nom du rond, ronte, oronte, non, géronte, oui, géronte, justement, voilà mon vilain, je l'ai trouvé, c'est ce ladre-là que je dis. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville, et mon amant m'allait perdre faute d'argent si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable et il mérite toutes les louanges qu'on peut donner.
Coquin que tu es.
Voilà le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Je ne saurais m'en souvenir que je ne ris de tout mon cœur. Il est allé trouver ce chien d'avare. Et il lui a dit qu'en se promenant sur le pont avec son fils, il avait vu une galère turque où on les avait invités d'entrer, qu'un jeune turc leur avait donné la collation, que tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer et que le turc l'avait renvoyé, lui seul, à terre, dans un esquif, avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger, s'il ne lui envoyait pas tout à l'heure, 500 écus. Voilà mon ladre, mon vilain, dans de furieuses angoisses. Et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles, et la peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut veut envoyer la justice en mer, après la galère des Turcs. Et il sollicite son valet de s'aller offrir à tenir la place de son fils, jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne, pour faire les 500 écus, 4 ou 5 vieux habits qu'il n'en valait que 30. Le valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable allait-il faire à cette galère ? Ah, maudite galère, traître de Turc !» Enfin, après plusieurs détours, après avoir longtemps gémi et soupiré, mais il me semble que vous ne riez point de mon compte. Qu'en dites-vous ?
Je dis que le jeune homme est un pandard, un insolent qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait. Que l'Égyptienne est une malavisée, une impertinente de dire des injures à un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille. Et que le valet est un scélérat qui sera par Géronte envoyé au gibet avant qu'il soit demain.
Scène 4. Sylvestre Zerbinette.
Où est-ce donc que vous vous échappez ? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant ?
Je viens de m'en douter, et je me suis adressée à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire.
Comment son histoire ?
Oui, j'étais toute remplie du conte et je brûlais de le redire. Mais qu'importe, tant pis pour lui. Je ne vois pas que les choses pour nous en puissent être ni pis ni mieux.
Vous aviez grande envie de babiller. Et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires.
N'aurait-il pas appris cela de quelqu'un d'autre ?
Scène 5. Argante, Sylvestre.
Hola, Sylvestre.
Rentrez dans la maison. Voilà mon maître qui m'appelle.
Vous êtes donc accordé, coquin. Vous êtes accordé. Scapin, vous et mon fils, pour me fourber. Et vous croyez que j'endure ?
Ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains. Et vous assure que je n'y trempe en aucune façon.
Nous verrons cette affaire, pandard, nous verrons cette affaire. Je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec.
Scène 6. Géronte, Argante, Sylvestre.
Ah, seigneur Argante, vous me voyez accablé de disgrâce.
Oh, vous me voyez aussi dans un accablement horrible.
Le pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus.
Et le même pandard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles.
Il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus, il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire, mais il me la paiera.
Ben, je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée.
Et je prétends faire de lui une vengeance exemplaire.
Plaise au ciel que dans tout ceci je n'ai point ma part.
Mais ce n'est pas encore tout, seigneur Argante, et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille, dont je faisais toute ma consolation, et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua.
Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente ? Et vous n'êtes pas donné la joie de l'avoir avec vous ?
J'ai eu mes raisons pour cela. Des intérêts de famille m'ont obligé, jusqu'ici, à tenir fort secret ce second mariage. Mais que vois-je ?
Scène 7. Nérine, Argante, Géronte, Sylvestre.
Ah, te voilà, nourrice.
Nérine se jetant à ses genoux.
Ah, seigneur Pandolfe, que...
Appelle-moi Géronte et ne te sers plus de ce nom. Les raisons ont cessé qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous, à Tarente.
Las, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici.
Où est ma fille et sa mère ?
Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement où, faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle.
Ma fille mariée ?
Oui, monsieur.
Et avec qui ?
Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante.
Oh ciel !
Quelle rencontre !
Mène-nous promptement où elle est.
Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis.
Passe devant, suivez-moi, seigneur Argante.
Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante.
Scène 8. Scapin, Sylvestre.
Eh bien, Sylvestre, que font nos gens ?
J'ai deux avis à te donner. L'un, que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée la fille du seigneur Géronte, et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables, et surtout le seigneur Géronte.
Cela n'est rien, les menaces ne m'ont jamais fait mal. Et ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes.
Prends garde à toi. Les fils se pourraient bien raccommoder avec les pères, et toi, demeurer dans la nasse.
Laisse-moi faire, je trouverai moyen d'apaiser leur courroux et...
Retire-toi, les voilà qui sortent.
Scène 9. Géronte, Argante, Sylvestre, Nérine, Hyacinthe.
Allons, ma fille, venez chez moi. Ma joie aurait été parfaite si j'y avais pu voir votre mère avec vous.
Ah, voici Octave, tout à propos.
Scène 10. Octave, Argante, Géronte, Hyacinthe, Nérine, Zerbinette, Sylvestre.
Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel !
Octave sans voir Hyacinthe.
Non, mon père. Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous. Et l'on vous a dit mon engagement.
Oui, mais tu ne sais pas.
Je sais tout ce qu'il faut savoir.
Je veux te dire que la fille du seigneur Géronte...
La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien.
C'est elle.
Non, monsieur. Je vous demande pardon, mes résolutions sont prises.
Écoutez.
Non, tais-toi. Je n'écoute rien.
Mais ta femme...
Non, vous dis-je, mon père. Je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe.
Traversant le théâtre pour aller à elle.
Oui, vous avez beau faire. La voilà, celle à qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute ma vie, et je ne veux point d'autre femme.
Eh bien, c'est elle qu'on te donne. Quel diable détourdi, qui suit toujours sa pointe.
Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé. Et nous nous voyons hors de peine.
Allons chez moi, nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir.
Ah, mon père, je vous demande, par grâce, que je ne sois point séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous.
Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez, mille sottises de moi-même ?
Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous, et je ne vous connaissais que de réputation.
Comment que de réputation ?
Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel, et je réponds de sa vertu.
Voilà qui est fort bien. Ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle, une fille inconnue qui fait le métier de coureuse ?
Scène 11. Léandre, Octave, Hyacinthe, Zerbinette, Argante, Géronte, Sylvestre, Nérine.
Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille, que ce sont eux qui l'y ont dérobée à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné qui pourra nous aider à trouver ses parents.
Hélas, avoir le bracelet, c'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites.
Votre fille ?
Oui, cela, et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré.
Ô ciel, que d'aventures extraordinaires !
Scène 12. Carl, Léandre, Octave, Géronte, Argante, Hyacinthe, Zerbinette, Sylvestre, Nérine.
Ah, messieurs, il vient d'arriver un accident étrange.
Quoi ?
Le pauvre Scapin.
C'est un coquin que je veux faire pendre.
Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, Il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir.
Et où est-il ?
Le voilà.
Scène dernière. Scapin, Karl, Géronte, Argante, etc. Scapin, apporté par deux hommes et la tête entourée de linge, comme s'il avait été blessé.
Aïe, aïe, messieurs, vous me voyez... Aïe, ouf, vous me voyez dans un étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Aïe. Oh oui, messieurs, avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de vouloir me pardonner tout ce que je puis vous avoir fait, principalement le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Aïe, 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 aïe,
aïe. Et pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos.
C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton que...
Ne parle point davantage, je te pardonne aussi.
Ça a été une témérité bien grande à moi, que les coups de bâton que...
Laissons cela.
J'ai, en mourant, une douleur inconcevable... Des coups de bâton, qu'elle...
Mon Dieu, tais-toi!
Les malheureux coups de bâton que je vous...
Tais-toi, te dis-je, j'oublie tout.
Hélas, quelle bonté! Mais est-ce de bon cœur, monsieur, que vous me pardonnez ces coups de bâton que...
Eh oui, ne parlons plus de rien, je te pardonne tout, voilà qui est fait.
Ah, monsieur... Je me sens tout soulagé depuis cette parole.
Oui, mais je te pardonne à la charge que tu mourras.
Comment, monsieur ?
Je me dédie de ma parole si tu réchappes.
Aïe, aïe, oh, voilà mes faiblesses qui me reprennent.
Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition.
Soit.
Allons souper ensemble. Pour mieux goûter notre plaisir.
Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure. Oh.